Damien Hertz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'ULIEJ et spécialiste de l'énergie. Alors c'est officiel, depuis lundi, les centrales de Doel 4 et Tihange 3 vont bien être prolongées pour 10 ans et ce, à partir de 2026. Nous avons demandé à nos auditeurs s'ils étaient rassurés de l'accord de l'État avec Engie. Alors pour commencer, vous, qu'en pensez-vous? Doivent-ils être rassurés de cet accord?
Bon, tout d'abord, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas encore vraiment accord. Il y a les lignes d'un accord, mais il n'y a pas encore de document officiel qui a été signé, qui stipule tous les détails de l'accord. D'ailleurs, certains des détails ne sont pas encore connus. Donc, je suis quand même encore un peu prudent. Hein. Tant que rien n'est signé, il y a toujours un risque que, ben voilà, qu'on puisse ne pas avoir de prolongation, même si je pense que ce risque est minime. Maintenant, cet accord me semble être un bon accord. En fait, je ne vois pas de choses vraiment surprenantes ou en défaveur d'une des parties dans cet accord. Donc c'est un accord assez équilibré. On note quand même que dans cet accord, Engie obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire un plafonnement sur le prix en fait maximal à payer pour le démantèlement des centrales et la gestion des déchets nucléaires. On va dire que dans cet accord, c'est là qu'est la victoire d'Engie, c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait plus devoir traiter ce dossier sans plafonnement au niveau de son coût.
Justement, on entend que certaines voix que c'est Engie qui a dicté les négociations et qui en sort vainqueur. Est-ce qu'on peut vraiment dire cela?
Non, Engie n'a pas dicté les négociations, il n'en sort pas nécessairement vainqueur. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le bon sens qui, pour une fois, en sort vainqueur de ces négociations-là. Si Engie avait dicté les négociations, ça aurait été fini en une semaine. Hein. Il n'aurait pas dû négocier 6 mois. Maintenant, Engie a eu ce qu'il voulait. Ça, je pense qu'ils insistaient vraiment sur ce plafonnement du prix de la gestion des déchets nucléaires. Mais je les comprends, c'est tout à fait sensé parce qu'il faut comprendre la nature même de ce dossier-là. C'était l'État belge en fait qui gérait les provisions nucléaires au travers d'un organisme qu'on appelle l'ONDRAF, mais c'était le Engie qui payait, qui n'avait pas vraiment de droit de regard là-dessus, et l'État étant assez inefficace en fait pour gérer en fait ce type, souvent des projets d'infrastructures, en plus des infrastructures spécifiques liées à la gestion des déchets nucléaires, ça faisait peur à l'industriel de devoir payer pour toutes les sous-optimalités de l'État, les caprices de l'État en ce qui concerne les déchets nucléaires et aussi son incapacité à dire on va faire ça avec, parce que peut-être qu'ils allaient creuser et les mettre en souterrain, puis plus les mettre en souterrain, les déplacer, les mettre en autre endroit, et chaque fois ça aurait été à charge d'Engie, et ça faisait terriblement peur à l'industriel.
L'ADH a titré « Ceci n'est pas un accord » en référence au fameux « Ceci n'est pas une pipe ». Qu'en pensez-vous?
Mais c'est assez amusant parce que j'ai discuté avec un journaliste, pas de l'ADH, mais de la RTBF hier soir, et qui était aussi très surpris en fait de la nature en fait de l'accord, qui n'est pas encore un accord puisque rien n'est signé. Et je lui avais dit d'utiliser, si vous voulez faire écrire un article sur le sujet, d'utiliser aussi un titre à la Magritte. Donc je félicite le journaliste de l'ADH pour avoir choisi cet excellent titre, parce que le gouvernement a communiqué hier sur le fait que c'était un accord, mais en fait c'est pas un accord puisqu'il n'y a pas encore d'accord. Il y a éventuellement des lignes d'un accord. Donc effectivement, il y avait un côté très magrittien à la conférence en fait de pressière du gouvernement, même un peu surréaliste, puisqu'ils parlaient d'un accord, qu'ils avaient un accord, alors que tout le monde sait bien que l'accord n'est pas encore là.
Alors ces lignes d'accord, justement, n'est-ce pas là un affront à la politique qui était la nôtre depuis plusieurs années, à savoir la sortie totale du nucléaire?
Non, c'est pas un affront du tout en fait. Donc je pense qu'en fait cette sortie totale du nucléaire liée à cette voie de 2003 était une ineptie. Il y a une erreur en 2003. Terrible erreur d'avoir voté cette loi-là qui n'avait aucun sens dans un contexte de crise climatique, de crise énergétique aussi maintenant, de guerre avec l'Ukraine. J'ai envie de dire c'est un premier pas dans la bonne direction, mais voilà, maintenant il faut revenir vers une politique énergétique rationnelle. On le voit encore plus avec cette guerre avec l'Ukraine et notre dépendance au gaz russe. Donc il faut refavoriser en fait les moyens de production en fait d'énergie qui nous permettent de ne plus être dépendants des combustibles fossiles, donc refavoriser le nucléaire. Donc voilà une première bonne étape ici avec cet accord qui, rappelons-le, n'est pas un accord. Et j'espère que ce sera suivi d'autres bonnes nouvelles au niveau politique, comme le fait qu'on abroge en fait cette loi de sortie du nucléaire de 2003 et qu'on se dise un peu aussi comme les Hollandais, les Français, les Anglais, les Polonais le font, on va devoir reconstruire des nouvelles centrales nucléaires aussi.
C'était donc prévisible, c'est pas uniquement un contre-coup de la crise énergétique due à la guerre en Ukraine.
La guerre en Ukraine a aidé à remettre un peu de rationalité au centre en fait du débat énergétique en Belgique. On rappelle quand même que le gros problème à l'heure actuelle de la politique énergétique belge, c'est qu'elle est quand même au contrôle en fait des partis verts, que ce soit au niveau régional, en tout cas souvent région flamande, et au niveau fédéral, dont le principal objectif est la sortie du nucléaire, n'est pas la transition énergétique, n'est pas la dépendance énergétique. Donc leur but ultime de ces partis-là a toujours été une sortie un peu du nucléaire. Enfin, c'est une obsession un peu irrationnelle, en fait, contre le nucléaire. Donc voilà, là c'est une première victoire, en fait, contre en fait, cette irrationalité qui plombe notre politique énergétique depuis une vingtaine d'années maintenant.
Nos voisins allemands, eux, ont franchi le cap, ils n'ont plus de centrales nucléaires.
Ah, c'est tout à fait faux, c'est tout à fait faux. Les Allemands, en urgence, ont quand même décidé, je pense, de prolonger trois réacteurs nucléaires, au moins jusqu'à la fin de l'hiver, début du printemps. Oui. Ils ont dû le faire en urgence. Les Allemands se rendent compte, hein, qu'ils sont des grands victimes de cette crise énergétique, se rendent compte en fait que leur sortie du nucléaire a été catastrophique et a sans doute conduit en grande partie à cette crise du gaz que l'on observe à l'heure actuelle en Europe. Oui.
Alors cette prolongation, concrètement, qu'est-ce qu'elle va changer pour le particulier?
Pour l'instant, la prolongation, elle va surtout permettre aux particuliers de peut-être elle va surtout permettre à la Belgique d'émettre moins de CO2 dans le futur, d'être moins dépendant au gaz, et ça pourra conduire en fait à la génération d'une électricité moins chère que celle qui est générée avec du gaz. Et donc ça, c'est tout au bénéfice du consommateur. Mais ça permet aussi de laisser en fait cette filière nucléaire en activité en Belgique et de pouvoir aussi plus facilement la relancer dans le futur, ce que j'espère l'on fera dès le prochain gouvernement, où je pense qu'on n'aura plus les vers à la tête de la politique énergétique.
Il y a eu la date de 2026 qui a été évoquée. Cela veut dire qu'il faudra de toute manière attendre 2026 pour voir les résultats de cette prolongation?
Malheureusement, oui. Donc le gouvernement, encore une fois, hein, parce qu'on a eu des militants antinucléaires qui s'occupent de la politique énergétique dans ce gouvernement, qui ne voulaient absolument pas de cette prolongation. Donc ils ont beaucoup, beaucoup trop attendu avant de signer avec Engie, de signer pour cette prolongation qui était une évidence qui s'impose. Résultat, les réacteurs ne seront pas disponible en fait pour fonctionner lors de l'hiver critique, cet hiver 2025-2026, au cours duquel on risque d'avoir des problèmes de sécurité d'approvisionnement. Je le crains.
Damien Ernst, je rappelle que vous êtes professeur à l'ULIEJ et spécialiste de l'énergie. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.